Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, une troisième dose de vaccin anti-Covid pour les plus de 65 ans et les patients à risque de forme grave. C'est la recommandation de la Haute Autorité de Santé. Sophie Bécherel nous détaille cela dans un instant. Le cap des 5 milliards de doses de vaccins administrées est franchi dans le monde avec d'énormes disparités. Offrez-nous du spectacle, du sport et des leçons de vie. Les Jeux paralympiques s'ouvrent en ce moment même au Japon. Nous allons à Tokyo dans ce journal. Plus de caméras de surveillance permettraient-elles de lutter contre le trafic de drogue à Marseille? Il n'y en a quasiment pas dans les quartiers nord, dit le ministre de l'Intérieur. Emmanuel Leclerc nous explique. 2000 personnes évacuées d'Afghanistan par la France et un en garde à vue, soupçonné d'être proche des talibans. Il doit être expulsé d'urgence, demande le candidat à la présidentielle Xavier Bertrand. Ce n'est pas si simple, nous dira un avocat spécialiste du droit des étrangers. Dans ce journal encore, la mort de l'ancien président tchadien Hissène Habré, qui avait été condamné pour crime contre l'humanité. Reconvertir des Airbus en bombardiers d'eau pour lutter contre les incendies, initiative d'un pilote de ligne. Et puis la météo de ce mardi après-midi, soleil et température estivale, orage à l'est du Rhône.
France Inter.
Il y aura bien une campagne pour une troisième dose de vaccin. Le ministre de la Santé l'avait laissé entendre hier. La Haute Autorité de Santé le recommande ce matin, Sophie Bécherel.
Oui, à compter de fin octobre et non en septembre, comme l'avait annoncé Olivier Véran, la Haute Autorité de Santé va lancer la troisième dose pour deux nouveaux groupes, les plus de 65 ans et les personnes avec comorbidité, par exemple diabète, obésité, problèmes cardiaques, ainsi que les personnes ayant un cancer en cours de traitement. En tout, ça fait 12 millions de personnes concernées. Cette troisième dose, déjà annoncée le 12 août pour les résidents en EHPAD et les personnes de plus de 80 ans vivant chez elles, vise à épargner les formes graves de la maladie aux plus fragiles, et ce d'autant que le variant Delta a montré une réduction de l'efficacité de tous les vaccins mis sur le marché. Cette dose de rappel se fera avec un vaccin à ARN messager exclusivement, Pfizer ou Moderna, et au minimum 6 mois mis après la deuxième dose. Une spécificité pour les personnes qui ont reçu du Janssen, elles n'avaient, vous vous en souvenez, qu'une seule dose. Et bien pour elles, la HAS recommande une deuxième dose, mais dès 4 semaines après la primo-injection. Pour l'instant, l'élargissement à toute la population n'est pas prévu, mais la Haute Autorité prédit que ça pourrait changer ces prochains mois. Et puis, vous l'avez noté, fin octobre, eh bien, c'est exactement quand la campagne annuelle de vaccination contre la grippe démarre, que ces rappels donc vont être enclenchés. Ce qui signifie que, sauf si une interférence non souhaitable était connue d'ici là, eh bien, c'est la vaccination contre ces deux virus que la HAS recommande. Elle disait qu'elle soumettait cette autorisation à un feu vert de l'Agence européenne du médicament, précision que vient à l'instant de balayer le ministre ministère de la Santé au nom de la protection des plus fragiles.
Et précisons qu'évidemment, jusqu'à nouvelle information, le pass sanitaire est valable avec deux doses. Il y a toujours en France nettement plus de 2000 patients en soins critiques, 2215. Rappelons qu'on était à moins de 1000 au début de l'été. Point d'inquiétude, les Bouches-du-Rhône, les hôpitaux de Marseille saturés doivent évacuer deux patients vers Strasbourg. La Martinique, hôpital de Fort-de-France, 95% des lits de soins critiques sont occupés. En Guadeloupe, après les élus locaux, la rectrice et le préfet demandent le report de la rentrée scolaire. Le taux d'incidence du virus y est de près de 9 fois supérieur à la moyenne nationale. Parmi les médecins qui sont allés prêter secours à leurs collègues en ce mois d'août en Guadeloupe, le professeur Louis Bernard, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de Tours, on entend dans sa voix à quel point ce qu'il a vécu l'a éprouvé. C'est ce qu'il a connu de plus dur en 30 ans de métier.
Je suis allé sur le tsunami, j'ai fait différentes missions humanitaires, mais j'ai jamais connu ça. J'ai un peu de mal à dormir, j'ai encore des idées noires face à des afflux massifs de patients aux urgences. Les gens restant pendant 24 heures sur des brancards, sans l'hygiène précaire, des décès nombreux dans les services de médecine avec un non-accès à la réanimation, une impuissance médicale et thérapeutique, un accompagnement palliatif pour la majorité des patients d'un service, quoi. Tout ça, ça fait cogiter quand même un petit peu la nuit, quoi.
Propos recueillis par notre consoeur de France Bleu Touraine, Chloé Martin. Si le rythme des vaccinations s'accélère en Guadeloupe, le taux de couverture reste nettement plus faible qu'ailleurs en France. Moins d'un quart des Guadeloupéens ont reçu une dose de vaccin. Dans le monde, on a franchi le cap des 5 milliards de doses injectées. C'est un des articles à lire aujourd'hui sur franceinter.fr. Près d'un tiers de la population mondiale a reçu une dose, près d'un quart est totalement vacciné. C'est une moyenne. Les disparités sont énormes. Deux exemples frappants. Couverture quasi totale à Gibraltar, moins de 1% en Haïti. Ils vont nager, courir, smasher, plaquer, ramer pendant près de 15 jours alors que la vie leur a imposé un handicap, quel qu'il soit. 4400 sportifs sont sur la ligne de départ. La cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques commence en ce moment même à Tokyo. Bonjour Guillaume Batin.
Bonjour Bruno.
Guillaume, le Covid qui impose le huis clos gâche en partie la fête, mais l'envie est là, racontez-nous.
Elle est là, mais elle est quand même un peu entachée par les derniers chiffres officiels. 25 000 cas positifs au Covid par jour au Japon, record depuis le début de l'épidémie. Les hôpitaux sont saturés. Le pays prend cette cinquième vague comme un tsunami, alors que les Jeux paralympiques débutent à peine en ce moment avec la présentation du drapeau japonais dans ce stade gigantesque entièrement vide. Au village paralympique, les athlètes sont invités à faire un test salivaire quasiment tous les jours. Le huis clos est de rigueur partout. Pendant la cérémonie en ce moment, mais aussi dans tous les stades, les gymnases qui vont accueillir toutes les compétitions paralympiques jusqu'au 5 septembre.
Alors Guillaume, on vous retrouve dans un instant. D'abord, parole à un athlète. Il y a 138 athlètes français, deux porte-drapeaux, une fille, un garçon, deux champions olympiques. La judokate Sandrine Martinet et puis le tennisman Stéphane Houdet.
On a vu un grand changement, notamment au moment des Jeux paralympiques de Londres, où la communication avait été préparée en amont, en imaginant que les Jeux olympiques étaient la phase préparatoire du grand événement qu'étaient les Jeux paralympiques 15 jours plus tard. C'était une boutade. Et je crois, moi, par expérience, année après année, que finalement, le regard est aussi une histoire de miroir et de communication. Et que si on a envie de renvoyer une image de sportif, eh bien, on va recevoir une image de sportif. Si on a plutôt envie d'envoyer une image de compassion, de tristesse, eh bien, c'est ce qu'on va recevoir. Et c'est l'histoire de la personne qui s'arrête au passage piéton et qui fait un grand sourire. Et automatiquement, on reçoit un grand sourire.
Des sportifs, donc, et 22 sports représentés. Les organisateurs espèrent toucher 4 milliards de téléspectateurs pendant ces Jeux paralympiques. Guillaume Batin, on vous retrouve. Les compétitions commencent cette nuit. Qu'y aura-t-il à suivre dans les prochaines heures ?
Il va falloir se lever très tôt, Bruno, à 2h du matin, comme pour les Jeux olympiques en juillet. Le cyclisme sur piste va ouvrir le bal avec la poursuite. On pense notamment avec une belle chance de médaille française à Marie Patouillet. Les épreuves de sabre aussi pour trois Français, Johan Peter, Maxime Vallée, Romain Noble. La natation avec deux belles chances de médaille, celle de Claire Chupiot, la première Française à disputer les Jeux olympiques et les paralympiques. Les Jeux olympiques, pour elle, c'était il y a plusieurs décennies. Elle prendra le départ du 400 mètres nage libre, comme le jeune Hugo Didier, 19 ans, et puis il y a le tennis de table. Et un sport qui mérite aussi d'être regardé, c'est le rugby fauteuil France-Japon à 12 contre 12. Très engagé, notamment avec les fauteuils. Et tout à l'heure, vous disiez 138 athlètes, ils sont 137 Français. On a une pensée pour Cécile Saboureau qui devait disputer le paratriathlon. Elle a été bousculée à l'entraînement par un camion. Sa vie n'est pas en danger, elle est pas tellement blessée, mais elle va évidemment se priver de ces Jeux paralympiques qu'elle préparait depuis des mois et des années.
Guillaume Batin en direct de Tokyo, où il est 20h08, c'est à suivre ces Jeux paralympiques, évidemment sur France Inter. Et pour les images, France Télévisions et l'équipe TV, c'est jusqu'au 5 septembre.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Il est mort en détention. L'ancien président tchadien Hissène Habré a succombé au Covid. Cet homme qui avait pris le pouvoir en 1982 après un coup d'État purgeait une peine à perpétuité, lui-même renversé en 1990. Il avait orchestré un régime de terreur dans son pays dans les années 80. Omar Waman.
Âgé de 78 ans, celui que l'on surnommait le Pinochet africain avait été condamné en 2016 par la justice sénégalaise pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes de torture. Ce verdict avait mis fin à une procédure longue de 16 années menée par des victimes et des associations de défense des droits de l'homme afin de traduire en justice l'ex-dirigeant tchadien qui avait trouvé refuge à Dakar en 1990 après avoir été renversé par un de ses anciens collaborateurs, Idriss Déby, décédé en avril dernier. Selon une commission d'enquête tchadienne, la répression exercée par le régime d'Hissène Habré a fait près de 40 000 victimes. N'Djamena avait d'ailleurs condamné son ex-président à mort par contumace en août 2008. En France, il était notamment connu pour avoir détenu arbitrairement plusieurs ressortissants européens, dont l'ethnologue Françoise Claustre, et surtout pour avoir fait exécuter le commandant Pierre Galopin, émissaire français envoyé par le gouvernement pour négocier leur libération. Soutenu par François Mitterrand, Hissène Habré sera reçu à Paris en grande pompe le 14 juillet 1987. Dakar, Omar Waman, France Inter.
Comment trouver l'équilibre entre accueil des Afghans qui fuient leur pays et contrôle du profil des personnes qui entrent sur le territoire français? cette question est un peu plus sensible depuis ce matin. La France a évacué quelques 2000 personnes d'Afghanistan aux mains des talibans. Désormais, 5 sont sous surveillance et, c'est l'information du matin, l'un des 5 soupçonné d'être proche des talibans est même en garde à vue, Ariane Grissel.
Oui, parce qu'il n'a pas respecté certaines mesures auxquelles il était contraint. Quand ils ont atterri en France, les 5 hommes, suivis par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, ont directement été conduits dans un lieu d'accueil de Seine-Saint-Denis et soumis à ce que l'on appelle une MICAS, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, avec donc interdiction de se déplacer au-delà d'un certain périmètre. Or, cet homme est sorti hier de cette zone, d'où son placement en garde à vue dans l'après-midi. Elle peut durer jusqu'à 48 heures. L'objectif est de vérifier si c'était intentionnel et si oui, ce qu'il comptait faire. C'est un proche de celui qui a en premier attiré l'attention des services de renseignement, cet Afghan qui avait été reconnu par des passagers de l'avion comme ayant tenu un barrage taliban juste en face de l'ambassade de France à Kaboul. Le ministère de l'Intérieur précise que cet homme a été d'une aide très précieuse au moment de l'évacuation, d'où la décision de le laisser poursuivre le voyage vers Roissy après escale, lui et donc 4 membres de son entourage, puis de tous les maintenir sous surveillance, le temps de mener les investigations sur la nature exacte de leur lien avec les talibans.
Pour Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle, le gouvernement doit expliquer aux Françaises qui empêchent d'expulser en urgence absolue les 5 Afghans sous surveillance. Le droit doit s'adapter aux besoins de notre sécurité, pas l'inverse. Alors saisissons cette question. Faustine Calmel l'a soumise à l'avocat Christophe Pouli. Il est spécialiste du droit des étrangers et enseignant à Sciences Po.
Si le parquet décide de faire ouvrir une information judiciaire, est intéressé placé en détention provisoire compte tenu de son statut, il y aura une instruction qui débouchera soit sur un procès, soit sur un non-lieu. Indépendamment de ça, le ministère de l'Intérieur peut toujours prendre un arrêté d'expulsion dès lors qu'il va considérer que la présence de l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public. Si on ne peut pas exécuter l'arrêté d'expulsion, eh bien l'intéressé est assigné à résidence. Dans une toute petite commune, généralement, il y aura interdiction de sortir du périmètre administratif de la commune dans l'attente que l'intéressé puisse effectivement être renvoyé dans son pays d'origine. On a aujourd'hui des personnes qui sont assignées à résidence depuis plusieurs années. On a eu ça dans le passé avec des ressortissants algériens. Et dans ce cas, effectivement, l'administration peut juridiquement prendre un arrêté d'expulsion, mais ne peut pas juridiquement procéder à l'exécution effective compte tenu des risques qu'encourt l'intéressé dans son pays de destination.
Et le profil des Afghans accueillis cet été est différent de ceux qui ont été accueillis ces dernières années. C'est 10 000 par an en moyenne. Cet été, un tiers d'enfants, beaucoup de familles, une population plus mixte, plus âgée. Jusque-là, la moyenne d'âge était de 27 ans. Autant de précisions apportées par le directeur général de l'Office français de l'immigration. À Kaboul, des milliers de personnes sont toujours massées aux portes de l'aéroport dans l'espoir de fuir leur pays. Et la pendule tourne. En principe, les derniers soldats américains quittent la ville dans une semaine, le 31 août. Si la date est confirmée, cela veut dire que les dernières opérations d'évacuation françaises se tiendront dès jeudi soir, après-demain, selon le Quai d'Orsay. On ne pourra donc pas évacuer tout le monde, renchérit la diplomatie espagnole. Pression donc sur les États-Unis pour qu'ils restent plus longtemps, même si les talibans s'y opposent. Cette question sera au cœur d'un sommet du G7, convoqué d'urgence en visioconférence cet après-midi. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Bruno.
Ce qui implique de dialoguer avec les talibans. Comment et pourquoi le G7 s'occupe-t-il de cette question?
Eh bien parce que le Royaume-Uni, qui actuellement préside le G7, a autrefois été très impliqué sur le terrain et accueille une importante communauté afghane. Il cherche un levier pour exercer une pression efficace sur les talibans, d'où le recours au G7, cercle de pays riches, qui agrège une majorité d'États concernés par les futures relations avec les talibans. Britanniques, mais aussi américains, français, allemands, italiens, sont intervenus militairement et craignent maintenant une nouvelle vague migratoire. La discussion lors de ce G7 ira donc au-delà des considérations tactiques immédiates, à savoir cette fameuse date butoir du 31 août, que Londres et Paris notamment voudraient décaler, sans grand espoir de parvenir à convaincre Joe Biden, les États-Unis étant eux-mêmes menacés à Kaboul par les talibans.
Et à propos de dialogue, selon le Washington Post, le directeur de la CIA a rencontré hier à Kaboul le chef politique des talibans, le mollah Baradar. Quels sont les moyens de pression des pays du G7 sur les talibans, Bertrand?
Alors le G7 a deux moyens d'agir. D'abord, l'arme financière envers un État sous perfusion. Depuis 20 ans, les centaines de milliards de dollars déversés par les États-Unis ont maintenu à flot ce pays, désormais menacé par une crise économique, voire alimentaire, que les talibans vont devoir affronter. L'éventuel appui du G7 leur serait précieux, les subventions occidentales ont été suspendues ces dernières semaines. L'autre moyen de pression, c'est l'isolement ou non du régime islamiste par les pays du G7. Sur ces deux sujets, économie et diplomatie, les talibans pourraient néanmoins se passer des occidentaux en cultivant leurs relations privilégiées avec la Chine et la Russie.
Des milliers de personnes cherchent à fuir l'Afghanistan, d'autres tentent la traversée de la Manche. 828 samedi dernier, nouveau record quotidien selon le Royaume-Uni. 12 000 personnes ont franchi le Channel cette année. La ville de départ de la longue et dense année politique qui s'annonce est Marseille. Emmanuel Macron s'y rendra prochainement. Dès aujourd'hui, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, est sur place. Déplacement prévu de longue date pour parler de justice des mineurs. Mais les morts du trafic de drogue rendent cette visite plus sensible. 15 morts depuis le début de l'année à Marseille, 3 ce week-end, un ado de 14 ans la semaine dernière. L'État doit prendre la mesure de la situation, dit le maire Benoît Payan. Il appelle à la création d'un parquet spécial anti-drogue. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui suggère une autre piste.
J'ai dit au maire de Marseille de mettre des caméras de vidéoprotection dans sa ville. Marseille est une des villes où il y a moins de caméras de vidéoprotection. Il n'y a quasiment pas de caméras dans les quartiers nord de Marseille. Il y en a plus à Tourcoing qu'à Marseille, quasiment, des caméras dans ces quartiers nord-là, alors qu'il y a 300 000 habitants qui y vivent.
300 000 habitants dans les quartiers nord, 100 000 à Tourcoing. C'était donc Gérald Darmanin sur France Info ce matin. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Spécialiste des questions de police à France Inter. Peu ou pas de caméras de vidéosurveillance dans les quartiers nord de Marseille, dit le ministre. Est-ce le cas? Est-ce que ça changerait la donne?
Ah bah écoutez, ne cherchez pas, il n'y en a pas des caméras dans les lieux de trafic les plus sensibles des quartiers nord à Marseille. Il n'y en a d'ailleurs jamais eu, nous confiait ce matin un ancien policier de la région. En fait, l'ancienne municipalité a équipé l'hypercentre, très touristique de la cité phocéenne, les docks, le vieux port, les plages. Mais dès que vous allez dans certains quartiers plus périphériques, sur les hauteurs, c'est beaucoup plus rare à part des caméras privées ou sur quelques bâtiments institutionnels. Alors, il y avait une deuxième phase de déploiement de caméras prévues dans les quartiers nord, justement, mais l'actuelle majorité municipale avait fait campagne contre ce projet. Après, on a vu qu'à Bordeaux ou encore à Lille, les discours ont changé avec l'idée de ne pas mettre plus de caméras, mais mieux réparties, plus performantes, et surtout avec l'idée que les dealers ne puissent pas les détruire en 24 heures, comme c'est souvent le cas. Ce qui est sûr, Bruno, c'est que les caméras ne changent pas fondamentalement grand-chose pour les transactions, les livraisons de drogue qui se font souvent à l'abri des regards, et donc des caméras, surtout quand les trafiquants ont coupé l'électricité dans le secteur. Par contre, quand il y a une agression, et pire, l'arrivée d'un scooter avec des passagers qui ouvrent le feu sur un ado comme la semaine dernière dans le 14e arrondissement, eh bien, ça peut permettre à la police de prendre la main en temps réel sur ces caméras de la mairie et d'essayer de suivre les criminels ou le lendemain de récupérer les vidéos pour zoomer, voir ce qui s'est passé vraiment et trouver d'éventuels indices sur les véhicules ou les suspects notamment.
Dans le Var, les routes départementales inaccessibles jusque-là rouvrent en cette mi-journée. Le feu dans le massif des Maures n'est pas encore éteint, mais il est maîtrisé selon les pompiers. À propos de lutte contre les incendies, une initiative d'un pilote de ligne qui s'appelle David Joubert, avec un institut de Toulouse, il milite pour reconvertir des Airbus en bombardier d'eau, Béatrice Duguay.
Et ça n'est pas saugrenu parce que, hormis le Canadair, eh bien, les bombardiers d'eau actuels sont tous détournés de leur usage initial, explique David Joubert.
Notamment, la sécurité civile française utilise des Dash 8, qui est un avion de transport régional. Et donc, l'Airbus, il a ses capacités. Ensuite, bien sûr, c'est un avion très grand, qui fait plus de 50 mètres dans tous les sens, même 60 mètres. On ne peut pas descendre en fond de vallée comme le ferait un Canadair, mais par contre, il est tout à fait adapté pour certaines missions dans la lutte contre les feux de forêt.
Alors, pas pour éteindre les incendies, mais pour répandre du produit retardant. 4 réservoirs de 40 000 litres installés à bord. Il faut ensuite percer la carlingue, implanter des tuyères d'éjection. Vient alors l'étape la plus délicate pour Dominique Legendre, professeur à l'INP Toulouse et chercheur à l'Institut de mécanique des fluides.
Sous ce point où vont se trouver les réservoirs, il y a le train d'atterrissage et il y a toute la partie importante pour l'avion. Et donc, il faut faire sortir le fluide d'une manière déportée par rapport à l'endroit où se trouve le réservoir. Donc, il y a tout un système de conduite qu'il faut intégrer dans l'avion pour le faire sortir au bon endroit par rapport à la stabilité et la sécurité de vol de l'avion.
Le projet est techniquement mûr, en tout cas. Les deux hommes travaillent dessus depuis 10 ans et la conjoncture leur ouvre aujourd'hui une fenêtre, car des avions, Covid oblige, il y en a beaucoup sur les tarmacs.
Ce sont des avions pour beaucoup qui ont très peu volé, qui ont entre 15 et 20 ans et qui sont encore en parfait état et qui peuvent remplir d'autres missions que celle de transporter des passagers.
Avion abordable, risque incendie et la sacrue, ces Airbus reconvertis permettraient de renforcer évidemment les moyens pour les batailles à venir.
Il nous reste à voir le temps de ce jour.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est ensoleillé mais orageux à l'est du Rhône cet après-midi.
Oui, des Alpes à la Provence, les nuages dominent avec des averses et des orages parfois costauds qui peuvent déborder vers le littoral du Var et la Côte d'Azur. Un orage possible aussi dans l'après-midi sur la montagne Corse et sur les Pyrénées. Ailleurs, c'est calme avec du soleil. Alors, quelques passages nuageux du sud de la Bretagne et de l'Aquitaine vers le Massif central, le Lyonnais, la Lorraine ou l'Alsace, mais vraiment sans conséquence. On a toujours du vent sur le sud-est, un cran en dessous tout de même par rapport à hier, jusqu'à 50 km à l'heure pour le Mistral comme pour la Tramontane. Sur la moitié nord, c'est un petit vent de nord-est qui s'est installé. Températures, elles sont proches des moyennes de saison, 21 degrés à Dinard, 23 à Lille, à Strasbourg, 24 à Paris, 26 degrés pour Nantes et pour Valence, 27 à Agen, 29 du côté de Marseille, on ira jusqu'à 30 à Perpignan. Demain, 1 à 2 degrés de plus l'après-midi, beaucoup de soleil et il restera parfois un orage sur les massifs du sud dans l'après-midi.
Élodie Calac, Météo France.